Vous écoutez On lit pour vous.
Frappé par des restrictions, des hommes encaissent le choc. Un texte de Rick Nowak, du Washington Post, paru le 26 septembre 2024 dans la presse. Alors que les talibans commencent à appliquer de nouvelles règles draconiennes sur les femmes en Afghanistan, ils commencent à viser un groupe qui n'a pas vu venir les restrictions sévères qu'on lui impose. Les hommes. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a 3 ans en Afghanistan, les femmes subissent un assaut de règles sévères qui limitent leur liberté personnelle et leurs choix vestimentaires. Dans les zones urbaines, les hommes pouvaient pour la plupart continuer à vivre librement. Les 4 dernières semaines ont toutefois amené des changements considérables pour eux aussi. De nouvelles lois promulguées à la fin du mois d'août 2024 imposent aux hommes de porter une barbe longue comme le poing, leur interdisent d'imiter les non-musulmans dans leur apparence ou leur comportement, ce qui a été largement interprété comme une interdiction du port des jeans, et bannissent les coupes de cheveux contraires à la loi islamique, c'est-à-dire essentiellement les coupes courtes ou occidentales. On interdit également aux hommes de regarder des femmes autres que leurs épouses ou leurs proches. Résultat, les hommes sont de plus en plus nombreux à porter des tapis de prière, se laisser pousser la barbe et laisser leurs jeans à la maison. Ces premières restrictions importantes imposées aux hommes ont surpris de nombreux Afghans, qu'il s'agisse d'opposants aux talibans, de partisans hésitants ou même de membres du régime taliban, lesquels se sont exprimés lors d'entretiens téléphoniques récents. Dans une société où la voix d'un homme est souvent perçue comme beaucoup plus puissante que celle d'une femme, certains hommes se demandent aujourd'hui s'ils n'auraient pas dû prendre la parole plus tôt pour défendre les libertés de leurs femmes et de leurs filles. Les officiers de la moralité. Si les hommes avaient élevé la voix, la situation serait peut-être différente aujourd'hui, déclare un habitant de Kaboul qui, comme d'autres personnes interrogées pour cet article, s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat ou qui a demandé que seuls ses prénoms soient utilisés, par crainte d'attirer l'attention du régime. Maintenant, tout le monde se laisse pousser la barbe parce que nous ne voulons pas être interrogés, humiliés, indique-t-il. Les nouvelles règles des talibans concernant les hommes, pâlissent en comparaison des restrictions imposées aux filles et aux femmes qui n'ont toujours pas le droit d'aller à l'école après la 6e année, qui n'ont pas le droit d'aller à l'université et qui ont récemment été interdites d'élever la voix en public parmi plusieurs autres règles. Selon des habitants, les nouveaux officiers de moralité religieuse, connus pour leur robe blanche, frappe depuis 4 semaines dans certains quartiers de Kaboul à la porte des hommes qui n'ont pas récemment fréquenté la mosquée. Les fonctionnaires ont déclaré qu'ils craignaient d'être licenciés parce qu'ils n'avaient pas laissé pousser leur barbe et certains barbiers refusent désormais de les tailler. De plus en plus souvent, les chauffeurs de taxi sont arrêtés pour avoir enfreint les règles de ségrégation entre les sexes, pour avoir fait monter des femmes non accompagnées dans leur voiture ou pour avoir fait jouer des chansons. Contraints à la soumission. Les nouvelles lois donnent à la police des mœurs le pouvoir de détenir des suspects pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 jours. Dans les cas les plus graves, comme l'omission répétée de prier à la mosquée, les suspects peuvent être traduits devant les tribunaux pour être jugés et condamnés sur la base de leur interprétation de la charia. Les infractions aux nouvelles règles devraient être sanctionnées par des amendes ou des peines de prison. Toutefois, les personnes reconnues coupables de certaines infractions, comme l'adultère, pourraient être condamnées à la flagellation ou à la mort par lapidation. Amir, habitant de l'est de l'Afghanistan, indique qu'il soutenait les talibans jusqu'aux dernières restrictions, mais il a désormais l'impression d'être contraint à la soumission par leur police des mœurs. « Nous sommes tous des musulmans pratiquants et nous savons ce qui est obligatoire ou non, dit-il, mais il est inacceptable d'utiliser la force contre nous. » et à mire d'ajouter « Même les personnes qui ont soutenu les talibans essaient maintenant de quitter le pays. » La plupart des hommes interrogés pour cet article vivent à Kaboul, la ville la plus cosmopolite du pays, ou dans d'autres zones urbaines. Les habitants des régions plus conservatrices et traditionnelles de l'Afghanistan disent qu'ils n'avaient pratiquement pas remarqué de changement. Un habitant de Helmand, une région rurale située dans le sud de l'Afghanistan, affirme que personne dans son village ne s'inquiète et que de telles règles y sont coutumières depuis longtemps. Jusqu'à présent, aucune police de la moralité ne s'est manifestée ici. Elle se concentre sur les villes, commente-t-il. Vous écoutez « Frappé par des restrictions, des hommes encaissent le choc », un texte de Rick Nowak du Washington Post, paru le 26 septembre 2024 dans la presse. Une réalité urbaine. Les nouvelles restrictions semblent refléter un changement plus large dans l'équilibre du pouvoir au sein des talibans, les éléments les plus conservateurs gagnant en influence ou cherchant à s'affirmer plus agressivement dans les zones urbaines, selon des responsables occidentaux et des critiques afghans des talibans. Le ministère du vice et de la vertu, qui dirige la police des mœurs, n'a pu être joint. Un ancien haut fonctionnaire du ministère nie que celui-ci se transforme de plus en plus en une agence fantôme chargée de l'application de la loi. Selon lui, sa principale responsabilité reste la prédication. Il s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat car il n'est plus autorisé à répondre aux journalistes. Les nouvelles restrictions imposées aux femmes comprennent l'interdiction d'élever la voix, de réciter le Coran en public et de regarder des hommes autres que leur mari ou des membres de leur famille. Les femmes doivent également se couvrir la moitié inférieure du visage, en plus du couvre-chef qu'elles doivent déjà porter. La répression par la police des mœurs, dans les zones urbaines où certaines règles religieuses sont rarement appliquées, a accru l'anxiété des femmes. Pour les hommes, c'est un choc. Un chauffeur de Kaboul, âgé de 36 ans, signale que les nouvelles restrictions lui paraissent énormes et qu'elles représentent une difficulté croissante pour son travail. Ses revenus ont diminué de 70 % depuis la fin du mois d'août 2024, en partie parce que les talibans ont commencé à appliquer une règle interdisant aux femmes de voyager seules dans les taxis. Les hommes se sont tus dès le premier jour. Même dans certains bureaux gouvernementaux, un nouveau sentiment d'effroi s'est installé. Un ancien partisan des talibans rappelle qu'un ami, qui travaille toujours pour le régime, s'est récemment vu retirer son salaire parce que sa barbe n'était pas assez longue. Nous avons appris que certains fonctionnaires, dont la barbe était plus courte que la longueur requise, se sont vus interdire l'accès à leurs services, déclare un employé du gouvernement, sous le couvert de l'anonymat, puisqu'il n'est pas autorisé à parler aux journalistes. Au cours des trois dernières années, les Afghanes se sont souvent sentis seuls dans leur angoisse. Certaines ont été exaspérées par le silence de leur mari ou par le soutien croissant apporté aux talibans, qui ont tenté de gagner les faveurs du public en construisant des routes ou encore en réparant des tunnels. Plusieurs femmes ont déclaré qu'elles espéraient que les hommes de l'Afghanistan se joindraient bientôt à leurs protestations. Les hommes se sont tus dès le premier jour, ce qui a donné aux talibans le courage de continuer à imposer de telles règles, observe une habitante de Kaboul âgée de 24 ans. Aujourd'hui, les talibans perdent enfin le soutien des hommes, ajoute-t-elle. D'autres doutent que la critique des règles puisse faire la différence. Lors d'entretiens, plusieurs habitants de Kaboul ont déclaré qu'ils avaient commencé ces dernières semaines à envisager plus sérieusement de quitter le pays. Mais si de plus en plus de jeunes fuient ce pays, il n'y aura plus d'espoir du tout, indique un habitant de Kaboul. C'était, frappé par des restrictions des hommes encaissent le choc, un texte de Rick Nowak du Washington Post, paru le 26 septembre 2024 dans La Presse.
Vers des boîtes à pizza vertes, un texte de Sarah Champagne, paru le 16 septembre 2024, dans La Presse. Au Québec, des milliers de tonnes de boîtes à pizza en carton pressé finissent au vidange chaque année. La quantité jetée avec la membrane graisseuse est tellement gigantesque qu'il n'y a pas de décompte officiel. Dans ce flot, un restaurant innove avec des boîtes consignées. Entre deux commandes, l'une des propriétaires du restaurant Nina Pizza Napolitaine, dans le quartier Saint-Roch à Québec, s'est dit que ça n'avait aucun sens de jeter autant de cartons. Son établissement est l'un des rares, sinon le seul de toute la province, à proposer à ses clients une boîte à pizza échangeable et réutilisable, dans un contenant en polypropylène. Durant la pandémie, j'ai eu un choc en voyant une véritable montagne de boîtes de pizza empilée dans notre local, relate Pénélope Lachapelle, copropriétaire de l'enseigne. J'avais eu l'idée d'une assiette fermable, réutilisable, dès la création de notre pizzeria. Chez nous, on a une politique de développement durable. C'était donc naturel de l'introduire. Que ce soit lors d'une commande en ligne ou sur place, rue Saint-Anselme, il est possible d'acheter une boîte circulaire de la taille d'une pizza de 12 pouces ou moins. La boîte a la particularité de conserver longtemps la chaleur. Elle est réutilisable et recyclable à 100 %. La restauratrice de Nina Pizza Napolitaine la vend au coût de 15 $. Je l'offre au prix d'achat. Je ne fais pas d'argent avec ça, dit-elle. On peut écouler jusqu'à 900 boîtes de carton par semaine dans nos deux succursales. La boîte réutilisable est une façon de réduire le gaspillage. Cependant, les gens n'adhèrent pas si facilement. C'est difficile à expliquer. Il faudrait un mouvement, une volonté politique commune. En ce moment, je tente d'augmenter l'intérêt avec l'ajout d'une carte fidélité donnant droit à une pizza gratuite au bout d'un certain nombre d'achats. Pas juste au Québec. Ce problème de boîte à pizza n'est pas propre au Québec. Dans le monde, la consommation serait de 951 pizzas chaque seconde pour 30 milliards de pizzas englouties chaque année selon l'indice Pizza 2023 de Jira Conseil, une firme parisienne spécialisée en consommation alimentaire hors domicile en France. Toutes les pizzas ne sont évidemment pas servies dans des cartons. Mais les quantités consommées donnent un aperçu de ce qui est acheminé à l'enfouissement, au recyclage ou encore au compostage. À la Société Recycle Québec, on recommande, au moment de jeter sa boîte à pizza, de couper cette dernière et d'envoyer la portion imbibée de gras au compostage et le carton propre au recyclage. Sans avoir le nombre précis, la société indique que 312 500 tonnes de cartons ondulés sont mises au recyclage chaque année au Québec, en incluant les cartons 2 et autres. C'est près de la moitié de tout le papier et carton, précise Daphné Champagne de Recycle Québec. Un problème de taille. La petite entreprise derrière la boîte réutilisable du restaurant Nina Pizza Napolitaine se nomme Pidcycle. Il s'agit du concept d'une jeune pousse de l'Allemagne. Jointe par courriel, la cofondatrice Marlène Brouche explique que l'entreprise est tellement petite qu'elle n'a pas encore percé à l'extérieur de l'Europe. Sur son territoire, certaines enseignes l'offrent, dont Pitry Pizza. Au Québec, plusieurs pizzerias, dont Domino's, misent sur des boîtes recyclables en carton recyclé. Michelle Wang est directrice générale de Beaupack, une entreprise québécoise qui offre un service de plats réutilisables dans les restaurants, établissements, grands événements, etc. Le plus grand frein au concept, selon elle, la taille du contenant et l'espace pour installer un bac de retour dans les restos. Les gens se disent probablement que la boîte à pizza a moins d'impact environnemental. C'est un moindre mal. On a un modèle carré de la bonne dimension disponible chez nous, mais on ne le retrouve dans aucun restaurant. Poubelle new-yorkaise. À New York, dans Central Park, un prototype de poubelle destiné aux boîtes à pizza a fait son apparition au printemps dans l'aire de pique-nique du célèbre Metropolitan Museum of Art. On demande aux visiteurs d'y insérer la boîte après avoir retiré les restants, les croûtes. Le projet pilote vise à mieux recycler, mais aussi à freiner les ardeurs des rats friands de restes graisseux. Responsable des relations avec les médias pour Central Park Conservancy, Kat Brady nous explique qu'il est trop tôt pour fournir des données par rapport au nombre de boîtes à pizza ainsi récupérées. Chaque poubelle peut contenir une cinquantaine de boîtes, davantage si elles sont écrasées. Le projet pilote continuera de battre son plein cet automne. Du personnel du parc veille à vider la poubelle deux ou trois fois par jour. En savoir plus, source Recycle Québec, 47 000 tonnes, c'est la quantité de cartons ondulés éliminés ou jetés l'an dernier au Québec, ce qui représente 2,4 % de l'ensemble des matières éliminées dans le secteur résidentiel. C'était Vers des boîtes à pizza vertes, un texte de Sarah Champagne, paru le 16 septembre 2024 dans la presse.
Entraîner son cerveau, c'est gagnant. Un texte de Jacqueline Simoneau paru dans Bel Âge. En vieillissant, plusieurs personnes disent que leur mémoire leur joue des tours, que leurs réactions sont plus lentes. A priori, il n'y a pas de quoi s'affoler. D'autant plus qu'on peut stimuler notre coco à tout âge. Explication. Le cerveau est un organe complexe. Il se compose d'environ 100 milliards de neurones qui reçoivent et transmettent des informations sous forme de signaux électriques. Essentiel au fonctionnement du corps, ces neurones communiquent entre eux par le biais de connexions appelées synapses. Celles-ci évoluent constamment en fonction des apprentissages, des expériences et de l'environnement. Hélas, tout comme le corps, le cerveau vieillit avec l'âge. Et le processus de vieillissement débute tôt. Dès l'âge de 25 ans, le nombre de neurones commence à décliner lentement, selon le Dr David Fortin, neurochirurgien et professeur titulaire au département de chirurgie, de radiobiologie et de pharmacologie à l'Université de Sherbrooke. Après 50 ans, le vieillissement s'accélère. Le volume du cerveau et de l'hippocampe, siège de la mémoire, diminue progressivement, le flux sanguin cérébral se réduit et les communications entre les neurones ralentissent, entre autres choses. Ces processus se produisent encore plus vite après 70 ans, ce qui augmente considérablement le risque de maladies neurodégénératives. La plus fréquente est sans contredit l'Alzheimer, mais il n'y a pas qu'elle. Parmi les autres troubles pouvant affecter les fonctions cognitives se trouvent la maladie de Parkinson, la démence à corps de Lévy, la démence frontotemporale et la démence vasculaire. Il va sans dire que le vieillissement du cerveau n'est pas sans répercussions. Il s'accompagne d'un ralentissement de certaines fonctions cognitives telles que les capacités d'enregistrer et de traiter rapidement de l'information, de prendre des décisions, de contrôler l'attention, d'accomplir plusieurs tâches à la fois, de retenir des choses nouvelles et de faire de nouveaux apprentissages, rapporte le docteur Louis Bérer, neuropsychologue spécialisé dans le vieillissement du cerveau, professeur titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal et directeur du centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal. Toutefois, les effets et leur intensité varient beaucoup d'une personne à l'autre. Oubliez l'endroit où on a déposé nos clés, le code de notre carte bancaire ou le prénom d'un ancien voisin est agaçant. Mais ça ne signifie pas forcément qu'une maladie cognitive nous guette, surtout si ces petits désagréments n'affectent pas notre quotidien. L'inattention explique bon nombre de trous de mémoire, soutient le docteur Bérer. Parfois aussi, les gens ont tellement de choses en tête qu'ils oublient de souvenirs précis de certaines informations. Une partie des troubles de la mémoire s'explique également par le fait que nos sens, comme la vision et l'audition, diminuent avec l'âge, d'où la difficulté de bien capter l'information. De nouvelles connexions. La neurone endommagée ou perdue ne se régénère pas. En revanche, le cerveau conserve sa neuroplasticité, c'est-à-dire sa capacité à créer de nouvelles connexions entre les neurones et à restructurer les réseaux cognitifs, et ce, tout au long de sa vie. Plus on stimule le cerveau, plus on préserve cette capacité de neuroplasticité, assure le docteur David Fortin. Celle-ci permet notamment de maintenir ses fonctions cognitives le plus longtemps possible et de réduire l'impact des maladies neurodégénératives. La neuroplasticité est très performante de 30 à 60 ans, mais diminue à partir de 60 ans. D'où l'importance de stimuler son cerveau en vieillissant pour la garder active. Éveiller ses neurones. Comme les muscles, les neurones doivent être exercés quotidiennement. Si on ne s'en sert pas, ils deviennent paresseux et se dégradent rapidement. À l'inverse, plus on les sollicite, plus on crée de connexions entre les neurones, et plus on renforce notre protection contre le déclin cognitif. Cela dit, faire des mots croisés, c'est bien. Mais si on ne pratique que ce loisir, on ne renforcera que les connexions qui y sont liées, soutient le docteur Fortin. Il faut donc varier les activités pour faire travailler tous les circuits. Il existe d'autres manières de stimuler son cerveau. Lire, écrire à la main, pratiquer des calculs, jouer au Scrabble ou à des jeux de cartes de mémoire et de société, faire des sudoku et des casse-têtes, exercer sa mémoire visuelle, suivre des cours, danse, langue, musique, etc. Débattre d'un sujet avec des amis ou sortir de sa routine en prenant un chemin différent pour faire les courses, mais aussi le coco à contribution. L'utilisation des nouvelles technologies n'est pas non plus à négliger. Selon le docteur Fortin, des études ont démontré que les gens âgés qui utilisent les médiums numériques pour faire des recherches ou des lectures sur Internet maintiennent leurs fonctions cognitives plus longtemps. C'est connu que l'activité cérébrale est à son maximum quand le cerveau est confronté à de nouveaux défis qui exigent un effort supplémentaire. Ainsi, il est suggéré de passer au casse-tête de 1500 morceaux si on a l'habitude d'en faire à 1000 pièces. De même, les gens qui réussissent sans problème les sudoku faciles devraient passer au niveau de difficulté suivant. Selon le docteur Louis Bérer, les jeux de vitesse qui obligent à prendre des décisions rapidement sont également profitables pour le cerveau. On bouge. L'activité physique régulière a un effet protecteur contre le déclin cognitif. Elle améliore notamment la connectivité entre les neurones et favorise la neuroplasticité. Plusieurs études ont conclu que les personnes actives physiquement perdent moins de volume cérébral que les personnes sédentaires du même âge et qu'elles conservent leurs fonctions cognitives plus longtemps, constate le Dr. Berrère. Elles sont moins à risque de développer une démence en vieillissant. Ce n'est pas tout. Selon le Dr. Fortin, la santé du cerveau dépend de celle de ses vaisseaux sanguins, d'une longueur de 650 km, qui fournissent oxygène et énergie aux cellules cérébrales. L'atteinte des vaisseaux sanguins alimentant le cerveau contribue largement à la démence vasculaire, explique le neurochirurgien. L'activité physique, tout comme le contrôle des maladies chroniques qui affectent le système sanguin, comme l'hypertension, le diabète et l'obésité, constitue l'une des meilleures façons de baisser significativement le risque de démence et de troubles cognitifs. Pour activer les neurones et améliorer le flux sanguin, il suffit d'un minimum de 20 minutes d'exercice modéré à intense par jour, vélo, natation, marche rapide, danse, etc. Une mesure assez simple, finalement. Des habitudes payantes. Selon le Dr. Berrère, les personnes qui privilégient un mode de vie sain et préventif ont de 30 à 40 moins de risques de développer la démence. Parmi les bonnes habitudes, dormir, bien s'alimenter et socialiser. Pendant le sommeil, le cerveau traite les informations, consolide les apprentissages, évacue les informations jugées superflues pour faire de la place aux mémoires utiles accumulées durant la journée et restaure les fonctions cérébrales, mentionne le Dr. Fortin. Un sommeil de mauvaise qualité ou trop court affecte ces processus et, par ricochet, la mémoire et les apprentissages. On connaît les bienfaits d'une saine alimentation sur la santé du corps, mais on oublie souvent son incidence sur le cerveau. Pour assurer son bon fonctionnement, on mise sur les aliments riches en polyphénols, en antioxydants, en lycopène et en oméga-3. Finalement, des interactions sociales fréquentes et significatives stimulent le cerveau. Autrement dit, être bien entouré retarde les problèmes cognitifs. Pourquoi pas organiser votre prochaine sortie maintenant? C'était « Entraîner son cerveau, c'est gagnant », un texte de Jacqueline Simoneau, paru dans Bel Âge.